Radio Campus Angers. L'Afterwork avec Olivier Piat.
Les amis, bonjour et bienvenue dans l'Afterwork de Radio Campus Angers. Quel bonheur! Quel bonheur, ça fait un petit peu surfait, je comprends. Quelle joie ce moment de partage! Et ça, ça fait entre soi, mais ça fait, je sais jamais assez, ça fait surtout du bien, quoi qu'on en dise, de savoir qu'à cette époque étrange où tout est considéré comme éphémère, né was been, à ce moment qui est prédominé par cette mode de la fast fashion et des amours Kleenex, tout doit aller très vite, tout doit se transformer, tout doit faire mieux qu'avant, plus neuf, plus cher, plus mieux. Le jeudi à 17h sur Radio Campus Angers, rien ne change. Ce sont des amours qui durent, un générique qui reste et des hôtes ravis de vous accueillir dans ce panel de personnalités qui font notre territoire si riche. L'Afterwork de Radio Campus Angers résonne dans le 103 de la bande FM pour la 10e saison et le bonheur est intact, la curiosité aiguisée et nos invités, eux aussi, ont toujours des choses à dire. Il y a quelques années, Sébastien Solo était notre invité, était venu nous présenter, pourquoi pas, son premier livre témoignage après un burn-out, un avant autre chose. Bonjour Sébastien.
Salut Olivier.
On va revenir sur cette période charnière de ta vie, bien évidemment, et puis sur toutes les choses qui font ton actualité maintenant, cette nouvelle vie. Bienvenue dans cet After Work. Cette année, vous aurez le bonheur d'entendre Oriane savourer Lucas, fidèle, Emma Schaff, fidèle, Jérôme Rey, redevenu fidèle. Oui, après un petit coup de canif dans le contrat, on va dire. Et puis bien plus qu'un fidèle, un apôtre, il porterait aussi bien la bonne parole que votre humble serviteur, monsieur Pascal Boursier.
Bonjour. Et si je pouvais être là à toutes les émissions, je peux te dire que je le ferais. C'est tellement chouette.
L'Afterwork de Radio Campus Angers, c'est la 10e saison, vous l'avez compris, comme le temps passe. 285e épisode de l'émission.
L'Afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, internet, podcast, radiocampusangers.com.
Bien, comment vas-tu Sébastien?
Ça va super, je suis tellement content d'être ici avec vous là.
Bah écoute,
pour cette rentrée.
C'est... Oui, on fait une rentrée ensemble,
ouais,
c'est chouette.
Ouais.
Nous aussi, tu vois, on est en pleine transformation comme toi, il y a des choses qui qui bougent et d'autres qui restent, je vous l'ai dit.
T'as fait de la chirurgie, c'est ça que tu veux dire?
Ça craque.
Ah, ouais.
Comment ça va? Voilà.
Bah, écoute, ça va super.
Depuis la dernière fois où c'était, je le disais, un livre de témoignage d'une période un peu charnière.
Ouais, tout à fait. Bah, là, j'ai l'impression que c'est une belle rentrée, bien dynamique, bien active.
Ouais.
Donc ça me fait plaisir, parce que voilà, j'ai envie de ça, donc c'est chouette.
On fête nos 10 ans. Tiens, qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans?
2014, bah écoute, je pense que je devais commencer à me questionner là, parce que j'ai quitté mon travail en 2016, mais j'étais déjà dans cette phase, ça devait commencer à maturer, ça a mis un petit peu de temps.
Tu te rends compte?
Mais je pense que c'est le moment justement où j'ai commencé à rouvrir un petit peu les questionnements.
On commençait à faire nos bêtises dans le studio et toi, t'étais peut-être en train d'un jour nous écouter, t'étais dans son ancienne vie encore, il se passe plein de choses en 10 ans.
Ouais. Est-ce que tu l'as lu et relu ce premier roman? Est-ce que est-ce que tu l'as lu?
Ah ouais, non, c'était pas un roman en fait, c'était le.
Oui, je dis roman, mais
il a l'habitude d'avoir des assistants, hein, Pascal.
Ça commence bien.
Il arrive à 17h, il découvre
ton
texte.
Ton témoignage. Mais ça se lit comme un roman. C'est tes aventures aussi, les aventures de Sébastien. Non, mais si tu le relisais là, est-ce que tu dis waouh, j'aurais jamais écrit ça? Ou en tout cas, il y a eu du chemin depuis?
Alors moi, je sais pas si Olivier, ça lui fait la même chose, mais alors, moi, quand je relis, déjà, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Donc je peux avoir un regard un peu détaché et trouver du plaisir en effet à relire.
Okay.
Et comme là c'est un récit de mon parcours sur Compostelle écrit en temps réel, en toute humilité je trouve que c'est vraiment pas mal.
T'as raison.
Oui, c'est vrai.
Je l'ai pas relu, mais en fait je peux retrouver cette énergie en fait, ça peut m'arriver.
Donc effectivement, parcours d'informaticien, ce qu'on peut appeler un burn-out, pars sur Compostelle.
Du coup je n'ai pas fait le burn-out parce que je l'ai un petit peu senti avant, j'ai le pif un peu.
D'accord.
Je sentais
les symptômes étaient les mêmes en tout cas.
Ouais,
tu peux
dire ça. Je sentais qu'il y aurait à un moment donné un réveil. En fait, ce qui me faisait peur, c'était genre de me réveiller à 50 ans, me disant mais qu'est-ce que t'as foutu de ta vie quoi. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé un peu avant que justement j'arrive au burn-out. Mais il y avait c'était une insatisfaction, on va dire, hein, quand même, qui se pose des problèmes, des questions de sens, tu vois, de ce que je faisais. On parlait d'informatique là, ça avait du sens un temps. Hein. C'est pas une question de dire l'informatique c'est nul.
Oui.
C'est juste que ça avait plus de sens pour moi quoi.
Et puis ensuite, tu fais une formation de réflexologue que tu exerces encore aujourd'hui.
Ouais, alors avant ça, j'ai quand même passé 2 ans et demi
à te balader.
Ouais, à me balader, justement à m'ouvrir à plus de choses. Et après, c'est venu cette formation. Mais ouais, j'ai ouvert une vraie parenthèse, je ne savais pas combien de temps elle durerait. Bon, elle a duré 2 ans et demi. Et puis après, voilà. il y avait envie de revenir un petit peu justement dans l'action. Donc j'ai fait une formation en 2019.
Et c'est quelque chose que tu aimerais refaire, une pause comme ça, une pause dans un parcours, prendre le temps de bah, prendre du recul, partir marcher, réfléchir, bah, se poser, vois, là, même si tu es toujours dans une quête et toujours dans une réflexion.
Bah, en fait, c'est ce que je fais ponctuellement. Là, tu vois, j'ai passé, j'avais acheté un van en fait, quand j'ai quitté ma première ville, et donc je l'ai toujours. Et du coup, je pars avec lui en vacances. Tu suis parti cet été en montagne. D'accord. Donc, en fait, ça fait ce temps.
Okay.
Voilà, avec justement des rencontres aussi. L'avantage du van, c'est qu'on peut aller voir les amis qui sont à droite, qui sont à gauche.
Ouais, oui.
Avoir des temps, justement, voilà, de marche en montagne, un peu isolé. Donc, finalement, j'ai ce moment où voilà, je peux poser ça. Et comme ça, quand je reviens, bah, je suis hyper motivé et je suis au taquet. Quoi.
Quand tu pars comme ça, il y a un rapport à la solitude. Justement, la solitude, est-ce que c'est des moments qui sont importants? Quand on est aussi dans une quête de spiritualité, est-ce que ce moment où, justement, on va un petit peu décrocher de et des autres, donc obligatoirement de la vie de tous les jours, un petit peu le quotidien et tout ce qui va un peu vite. Est-ce que ça permet de prendre du recul, ce moment tout seul avec soi-même?
Ouais, alors ça, de toute façon, je pense que c'est indispensable. Je sais que c'est pas forcément évident, mais à un moment donné, si on veut comprendre qui on est et faire un minimum d'introspection, de toute façon, faut se retrouver avec soi-même. Ce qui fait souvent d'ailleurs peur aux gens, c'est pour ça qu'ils le font pas, parce qu'en fait, ils ont peut-être un peu peur de voir ce qu'ils vont trouver, ou enfin voilà, je sais pas, mais. C'est indispensable.
Dans une société comme la nôtre, il y a même aussi une notion de culpabilité à comme ça partir tout seul. Ouais. Et c'est les autres qui peuvent à un moment dire mais c'est très égoïste de faire ça.
Ouais,
et alors, et nous, qu'est-ce qu'on fait, les gens autour de toi, ta famille, tout ça. Donc c'est quand même déjà une vraie décision de partir seul.
Ouais. Mais pour moi, ça c'est vraiment juste un truc qu'il faut vraiment faire tomber parce que moi je vois trop de personnes que je reçois, des infirmières, des soignants. Qui sont, bah là, pour le coup, on parle de burn-out, qui sont en burn-out parce qu'en fait, ces gens-là, c'est leur nature de donner. Mais à partir du moment où ils ne commencent pas par eux-mêmes, en fait, après, ils ne sont plus en capacité de le faire. Donc, moi, j'ai réglé la question. C'est à partir du moment où, dans mon vécu, je sais que le fait de prendre du temps, ça va au contraire. Après, c'est l'élan naturel de revenir vers les autres. L'être humain, naturellement, pour moi, c'est ma conviction profonde. Il a cet élan, en fait, profondément d'aller vers l'autre. On est des êtres de lien.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, quand on est bien, eh ben, naturellement, une fois qu'on a pris du temps pour soi, on reste pas dans sa cabane, quoi. Donc, y en a qui peuvent le faire parce que c'est leur nature aussi, peut-être, d'être complètement ermite. Mm-hmm. En tout cas, moi, c'est pas la mienne. Donc, voilà.
Ça, c'est quelque chose que tu arrives à faire, Pascal, toi, à partir seul.
Ça y est.
Ouais.
Ouais, ça fait 2 ans. Que j'ai réussi à le faire.
Et ça,
mais c'est vrai que j'avais le syndrome de la culpabilité qui me chevillait. J'osais pas. J'étais persuadé que c'était pas bien, que je laissais les autres. Et ça m'a taraudé d'abord quand j'ai été tout seul pendant le Covid. Je me suis retrouvé tout seul aussi pendant quelques temps pendant le Covid. Au début, c'est un grand flip. Et puis, tu commences à dompter cette solitude, te dire qu'avec toi-même, c'est pas
c'est
si
ça,
mal.
C'est ça le plus dur, c'est de dompter la solitude.
Ouais, et maintenant, pour moi, c'est vital, effectivement. Et même là, cet été, je suis parti en montagne tout seul. Et on vit même des moments, j'arrive même pas à mettre des mots dessus, qui sont assez, assez fabuleux, faramineux, des petits moments comme ça, où on sent qu'on est vraiment en lien avec tout ce qu'il y a autour. Sans vouloir et sans être dans vraiment une spiritualité, c'est presque dans le corps qu'on le ressent.
Bien sûr, mais de toute façon, pour moi, une spiritualité, c'est une spiritualité incarnée. Hein. J'en parle souvent dans les textes parce que justement, j'ai vécu un peu cette phase où je vis la spiritualité vraiment, je m'ouvre, etc. Et il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça manque de joie, ça manque de quelque chose. Et donc, moi, ça m'a ramené. C'est l'humour d'ailleurs qui m'a ramené sur mon chemin à un moment donné parce que ça devenait
l'humour.
Trop sérieux.
Ouais.
Ça devenait trop sérieux en fait. Et donc, l'humour m'a ramené. Et après, on revient parce que dans le corps, justement.
C'est drôle.
Ouais.
Mais dans tes livres, de toute façon, tu mets beaucoup d'humour.
Ouais, bah
quasiment
ça.
Tout le temps.
Ah bah,
les images, comme si tu, au fond, tu ne te prenais pas au sérieux avec des sujets très sérieux.
Et oui, bien sûr. Mais alors là, pour le coup, quand on entame un travail sur soi, si on veut entamer un travail sur soi en parlant comme ça et de regarder, c'est hyper important pour moi d'avoir une certaine forme de dérision, etc. Sinon, ça va devenir très compliqué parce qu'on va tout prendre justement au premier degré, hyper sérieux, à la culpabilité et compagnie, alors que non, comme tu dis, partir, mais aussi c'est pour aussi le plaisir de se retrouver, la joie des retrouvailles, enfin tu vois, après quand tu reviens, tu apportes quelque chose de nouveau finalement à tes proches, tu vois, tu peux apporter cette tranquillité qu'ils vont ressentir.
C'est un endroit, on va parler de toi par rapport à l'écriture évidemment, mais et toi Pascal, c'est un endroit comme ça quand tu pars seul, c'est plutôt grasse mat ou au contraire c'est de la créativité ou des balades très tôt le matin, comment tu utilises ce temps ou c'est vraiment au jour le jour, enfin, justement, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas
Pour moi, c'est justement être sur le jour, ne rien prévoir. Et en fait, j'ai
l'impression. Le ciboulot, il tourne ou tu lâches tout, au contraire?
Non, parce qu'en fait, je fais beaucoup de choses. Mmh. En fait, et c'est aussi bah, justement l'inertie du groupe, mais qui est tout à fait normale.
Ouais, ouais.
Quand on partage même des vacances, il y a toute une organisation. Mmh. Il faut que tout le monde soit bien, il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut donc, c'est des horaires, c'est... mais rien que manger, rien que ce truc qui revient trois fois dans la journée.
C'est énorme.
C'est dément, mais c'est dément. Et quand t'es tout seul, tu manges quand t'as faim, c'est tout. Et tu te dis, mais c'est tellement simple, finalement.
Ouais.
Et c'est justement ce fait de ne rien prévoir qui fait que ben, tu sors du lit très vite parce que tu es tout seul et tu sais que tu vas pouvoir faire plein de choses, aller où tu veux. Donc, ce moment-là, c'est du kiff, mais à 100%. Et donc, ben, t'en profites, tu en profites. J'ai pas fait une seule grasse mat. Et j'ai fait des bornes. Et on rencontre, heureusement, évidemment, du monde dans la solitude
d'un
voyage de vacances. Et tout de suite, tu es beaucoup plus ouvert avec les autres. Tu vas parler avec tout le monde.
Et la créativité, alors ? Tu arrives à faire des choses ?
Et c'est maintenant que je vais le voir. Pas sur le coup, parce que justement, sur le coup, je ne veux pas culpabiliser de quoi que ce soit. Donc, je ne veux pas me dire, il faut que je crée.
Ah oui, d'accord.
Là, il faut que je crée. Oh merde, j'ai rien écrit ou j'ai rien...
Mais tu as l'impression de recharger des batteries. Ou de te rendre disponible, en tout cas, intellectuellement.
Exactement. C'est vraiment cette ressource-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis là, je me suis remis dedans avec grand plaisir et avec plein de choses à dire. Notamment là, vous avez vu.
Mais, et toi, Sébastien, quand tu pars, c'est aussi un endroit où tu aimes créer. Cette solitude t'amène à ça ?
Ça dépend, pas forcément.
Écrire ou d'autres créations d'ailleurs.
Alors, l'écriture pour moi c'est très particulier parce que c'est vraiment un robinet qui s'ouvre et qui se ferme quand il veut. Et là, il est fermé depuis un bon moment. Ouais. Moi, par exemple, j'ai noté, j'ai pas l'écriture, j'ai pas ton talent, par exemple, tu vois, de romancier. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'admire d'ailleurs. Moi, c'est vraiment en relation, tu vois, avec des choses à partager à des moments donnés. Mon témoignage la première fois, ou raconter le parcours. Mais par contre, je vois bien que c'est pas du tout quelque chose qui me vient, tu vois. J'ai essayé à des moments, j'aimerais bien écrire un roman. En fait, c'est pas du tout naturel. Donc, en fait, j'essaie pas ça parce que ça serait forcé, tu vois.
D'accord.
Et donc, il y en a qui ont ce talent de raconter des histoires. Donc, je lis leurs histoires que j'adore. mais du coup, je ne force pas. Si je me mettais justement à une table en disant faut que j'écrive, tu vois, il y aurait quelque chose de pas juste.
Je me suis posé la question justement sur le témoignage. Comme tu dis que ça vient très vite comme ça. Et des fois, justement, les images, l'humour. Je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que par moment, il s'astreint à ne pas juste écrire ce qu'il a fait dans la journée, mais à y insuffler justement un peu plus d'âme, aller un peu plus en profondeur pour retrouver des petits moments, des petites choses comme ça qui te sont arrivées. Et deuxième question, tu as écrit bien après ou c'était presque pendant tout ce parcours-là où tu prenais des notes, comment ça se passe ?
Alors sur Compostelle, c'était vraiment en direct, là c'est vraiment venu quand j'écrivais, c'est que c'était pas du tout prévu d'ailleurs pour écrire. C'est que, en plus, moi je pensais faire Compostelle vraiment le mode ermite, je me coupe de tout. Et puis en fait, naturellement, il y a eu cette envie de partager, comme j'ai l'envie d'être avec les autres. Et donc, j'écrivais au fur et à mesure de ce que ça me venait.
Comme un journal.
Et ça faisait une chronique tous les jours, en fait, que je partageais aux gens, quelques photos. Et donc, après, j'ai juste remis en forme toutes ces chroniques qui se sont accumulées. Donc là, c'était vraiment l'énergie de chaque moment qui se vivait. Et là, les pensées tournaient, et la marche, ça c'est sûr, c'est pas moi qui vais l'apprendre, les écrivains en ont beaucoup parlé. Ça ouvre vraiment des choses. Je voyais les phrases qui prenaient leur forme dans ma tête, et à un moment donné, elles sortaient. Et donc ça, c'est comme ça. Et l'autre témoignage, il est venu, par contre, un peu plus tard sur mon parcours, justement, de cheminement un peu spirituel, on va dire. J'ai eu besoin de laisser passer un temps. Voilà, peut-être un an après, au moment où j'avais vraiment laissé... ça s'était un peu terminé. Et par contre, c'est sorti là, pareil, en 10 jours. C'est-à-dire que le truc, il est sorti vraiment à toute vitesse.
Mais t'as été grisé par cette première expérience d'écriture ? Ça t'a donné envie de continuer ? Il y a une espèce aussi d'addiction du partage, en tout cas.
Oui, l'addiction du partage. Mais alors, du coup, l'addiction du partage, tu vois, elle peut prendre plein de formes, en fait. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par des rencontres. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est hyper important, hyper fort. Je le note d'autant plus, notamment, après cette période d'introspection qui a été assez importante.
Ouais.
Et même qui est globalement, même qui datait d'un peu d'avant de ça. Parce que moi, j'avais plutôt une nature assez indépendante. Je suis fils unique, etc. Donc, j'ai vraiment globalement une première partie de vie très indépendante, très tournée vers moi-même. Mmh. Et là tout seul, sans rien forcer, ça s'ouvre, en fait. Vers les autres. Mmh. Et donc, et voilà, par contre, ça n'empêche pas que je m'oublie pas. Tu vois, je pars en vacances comme toi et je prends du temps pour moi, et au contraire. Mais il y a vraiment cet élan qui est très fort, justement, de partager avec les autres et d'échanger. Et visiblement, c'est un élan qui est commun. Il n'y a qu'à voir les Jeux Olympiques pour voir que finalement, c'est très, très partagé, cette envie, justement, d'être tous ensemble en communion et voilà.
Il y a une forte rencontre, en tout cas, je ne sais pas si la maison d'édition découle d'une rencontre ou si au contraire la maison d'édition a eu besoin de temps à un moment donné. Tu vas nous raconter l'histoire de Ilia, en un seul mot, même s'il y a un rapport évidemment avec Ilia. Mais il y a deux choses dont il faut qu'on parle, c'est Vers une vie sans souffrance et 5 saisons sur la Terre, qui sont tous les deux chez Ilia Édition. Ça, c'est une continuité justement de ces expériences aussi.
Alors, 5 saisons sur Terre, c'était un peu le. J'ai eu besoin à un moment donné, tu parlais d'écriture, de déposer ma vie. Un peu une histoire, mon histoire. Il y avait comme à un moment donné l'envie de faire un point, je ne sais plus quand je l'ai écrit à ce moment-là, mais en gros de raconter toute mon histoire, mon enfance, etc. Quelque part, c'était surtout pour moi finalement de le poser comme ça.
C'est écrit plus comme un roman que
c'était un peu plus romancé. C'était une façon.
Pourquoi pas, qui est ton premier bouquin.
L'idée, c'était peut-être d'utiliser un peu ce format-là, peut-être.
Ouais.
Et puis voilà. Alors que l'autre, le dernier, là, Vers une vie sans souffrance, c'était plus vraiment synthétisé plus sur la partie vraiment du cheminement spirituel. Ça c'était. C'est le début d'Ilia Édition. C'est ce qui a amené justement cette création.
Besoin d'écrire un livre, même sur le schéma un peu d'un roman, mais où est-ce que tu mets la pudeur et l'impudeur? Parce que je trouve ça toujours. Moi je serais incapable d'écrire un livre pour l'instant comme ça, par pudeur, en me disant je le garde pour moi. Et qu'est-ce qui nous pousse, qui pousse un auteur à justement être un peu dans cette, entre guillemets, petite impudeur-là, puisqu'il va livrer ce qu'il est.
C'est ça. Alors là, c'est étonnant. Je pense que j'étais le premier surpris. Ça s'est fait sur le chemin de Compostelle, en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dû commencer à partager des choses. Et puis comme il y avait cette distance avec les autres, et que j'étais déjà en mode, parce que quand on rencontre des gens sur le chemin de Compostelle, c'est très impudique en fait, parce qu'en fait on ne connaît pas les gens, et c'est hyper facile puisqu'on sait que ça se trouve on se reverra jamais, même on va se voir une journée, tout le monde est là parce que
ça arrive aussi en boîte de nuit à 4h du matin.
Chacun son truc.
On se reverra pas. Ou on se reconnaîtra pas.
C'est la même dynamique, exactement. Et les gens qui sont là sur Compostelle, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui les a amenés là. On sait pas tous. Il y en a, c'est un deuil, d'autres, c'est un questionnement. Mais bon, il y a quelque chose de fort.
Une recherche, en tout cas.
Il y a quelque chose, en fait. Des fois, on le sait même pas. Mais en tout cas, on est là. Donc, finalement, quand on se retrouve, on raconte pas nos vies, qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. Ça va rentrer tout de suite dans le dur. C'est-à-dire que. C'est très intime tout de suite avec les gens.
Saint-Jacques de Compostelle, pour contextualiser, parce que c'est un fantasme, ce truc-là, que j'entends depuis toujours, c'est prendre à un moment donné un chemin, on va jusqu'à... Alors, c'est de où à où, et tu le prends où
Si on veut parler au niveau historique, c'était en fait, les pèlerins partaient de chez eux, ils allaient à Compostelle, en fait. Là, ils avaient certains rites, justement, qu'on parle de Renaissance, et après, ils revenaient. C'est-à-dire qu'ils récupéraient justement des coquilles comme preuve de leur passage à Compostelle, des coquilles Saint-Jacques, et ils rentraient chez eux. Donc ils prenaient le chemin qui allait. Alors souvent ils retrouvaient des voies, parce qu'il y avait certaines voies qui étaient un peu tracées. Donc là, il existe toujours des grandes voies en France. Il y a la voie de Vézelay, la voie du Puy-en-Velay. Donc moi, je sais que j'avais pris, par exemple, j'aurais très bien pu partir d'Angers, parce qu'il y a une voie qui longe la côte atlantique. Mais j'avais déjà fait un peu le départ du Puy-en-Velay. C'est vraiment le chemin qui est vraiment. Si on veut parler, qui est vraiment magnifique, avec des paysages incroyables et des lieux vraiment sacrés à visiter. Donc moi, j'avais pris cette option de repartir du Puy-en-Velay. La majorité des gens, quand ils viennent, par exemple, de l'étranger, ils partent de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est-à-dire que pour eux, le chemin, c'est le chemin espagnol. On part de France, mais on passe les Pyrénées tout de suite.
Parce que Compostelle, c'est au-delà de la frontière, c'est en Espagne.
Voilà. C'est quand on arrive. Alors moi, le but, c'était d'aller voir presque, c'était pas tant Compostelle, c'était d'aller voir la mer. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout, qui est à peu près 100 km après Compostelle. Ça s'appelle Fisterra, c'est la fin de la Terre. Donc en fait, on peut pas aller plus loin, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort quand on arrive là, quand ça fait 60 jours qu'on marche et qu'on arrive au bout de cet éperon rocheux, là, il y a un phare et on peut plus aller plus loin, quoi.
Il faut symbolique.
Ah ouais.
Automatiquement être catholique, je vais exprès poser la question, pour faire Saint-Jacques de Compostelle ou non?
Non, c'est vraiment chacun. De toute façon, le chemin de Compostelle, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun y met ce qu'il veut et ce qu'il est. Donc, en fait, ça crée finalement le chemin en lui-même, il n'a pas tellement d'intérêt en soi, c'est ce qu'on y met. C'est qu'en fait, comme je disais, c'est le fait qu'on arrive avec quelque chose et on retrouve des gens qui sont un peu dans cette même dynamique et on oublie en fait tout le reste. C'est-à-dire qu'on vit Compostelle tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'est que dans des gîtes, c'est Compostelle. Donc, il y a quelque chose qui se passe en fait, une forme de dépouillement au fil des jours où finalement, on a plus, comme tu disais, il n'y a plus rien à programmer. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu prends ton sac, il faut juste arriver à une étape le soir. Tu n'as même pas besoin de savoir où, parce qu'il y a des auberges partout. Donc, tu marches, quand t'en as marre, tu t'arrêtes et voilà. Et donc, en fait, t'as plus rien. Donc là, en effet, pour le coup, t'es vraiment avec toi-même, puisque t'as plus rien d'autre à te préoccuper. Donc, là, ça peut devenir intéressant. Ou flippant, ça dépend.
Ouais, bien sûr.
Donc là, vraiment, c'est ça, t'es à nu, quoi. Et comme, en plus, les rencontres ne sont jamais par hasard, c'est-à-dire que les gens vont venir raconter des trucs qui vont peut-être toucher des trucs. T'auras un problème avec ton père, bah, l'autre va te raconter ça, bah, il y a quelque chose, tu vois.
Ouais.
Et donc, ouais, par contre, ça peut être aussi, des fois, c'est un peu lourd, quoi.
Okay. Ouais, ouais. Donc, ça t'est arrivé de voyager par moment avec des gens ou avec quelqu'un?
Oui, il y a des gens. Bah, des fois, il y a des gens que tu peux retrouver. Moi, dans mon personnage ami que j'ai retrouvé, c'est qu'après, il y avait un Japonais, en fait, qui s'appelait Nao. On est parti le même jour et je suis arrivé juste la veille de quand il est arrivé. Donc, lui, il faisait que de marcher. Moi, j'allais un peu plus vite. Mais par contre, on se croisait, on se recroisait. Enfin, c'était hyper étonnant. Donc là, tu développes quelque chose, voilà, de cet ordre-là. Et sinon, bah, y avait des gens qu'on croise aussi. Mais là, lui, c'était vraiment dingue. On avait vraiment un chemin qui était en parallèle. Mmh. Donc des fois, je le voyais débarquer le soir à l'auberge. Donc c'était vraiment toute la joie de retrouver un ami, tu vois, après.
Et sur ton livre, Vers une vie sans souffrance, t'as vraiment eu l'impression que autant de gens que ça souffrent autour de toi, tu as eu beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres où tu t'es dit, tiens, mon parcours pourrait aider alors, vers une vie sans souffrance. C'est assez violent comme titre, en fait.
Tu regardes un petit peu les actualités, non? Tu vois l'état des gens, non?
Je vois ce que tu veux dire, c'est le terme. Revenons sur ce terme qui est fort,
ouais.
Souffrance.
Ouais, ouais.
Parce qu'encore une fois, on souffre tous. Je souffre de pas dire ce que j'ai envie là, au moment. Enfin, toutes souffrances, vraiment. Mais justement, ouais, pourquoi tu choisis ce terme de souffrance? Pourquoi il est important?
Là, c'est le terme plus de souffrance, toi, existentielle. Il y a quelque chose. On le ressent bien. D'ailleurs, je te dis, on le voit bien dans les comportements. Tout ce stress, cette agressivité, etc. C'est parce qu'il y a des moments où justement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément vu ou qui a pris le temps d'être vu et qui fait que justement, il y a cette souffrance globale qui peut apparaître. Mais tu vois qu'il n'y a pas une fatalité, en fait. C'est vraiment... Mais pour ça, il faut prendre un temps, au minimum, parce qu'en fait, en effet, ça va très très vite, et que souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a même pas forcément conscience qu'on souffre.
Alors, est-ce qu'il faut définir, est-ce qu'il faut identifier nos souffrances d'abord, pour pouvoir ensuite...
Pour moi, la souffrance, le mot que j'avais eu, moi, ma définition de la souffrance, en fait, est-ce que la plupart des gens, c'est le refus de ce qui est. Tu vois, c'est refuser... ce qui est, tout simplement. À partir du moment où tu acceptes ce qui est, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire le temps qu'il fait, comment tu te sens physiquement, etc., d'un coup, ça se détend. Ça ne veut pas dire que ta vie, elle est extraordinaire, tout va bien, mais c'est-à-dire que tu ne luttes plus. Et pourtant, ça paraît simple quand on le dit, hein, franchement. Mais tu vois bien que les gens, mais il pleut, c'est pas normal, mais l'essence, elle est à 1,60, c'est pas normal, mais c'est... Enfin bref,
ouais.
Tu vois. Et ça refuse, en fait, en permanence, et c'est ça qui crée de la souffrance, en fait.
Et dans ton métier de réflexologue, aujourd'hui, tu essayes aussi de passer des messages, comme d'aller plus loin que la réflexologie, mais...
Ouais, alors déjà, j'ai pas de plan quand je reçois les gens.
Ouais.
En fait, ils viennent et en fait, on part d'où ils sont. Et puis, en fait, il y a des gens qui vont venir parce qu'à un moment, ils ont un inconfort et on va juste soigner cet inconfort.
Mais ok. Mais c'est aussi un canal pour parler de plein de choses.
Mais après, il y a des gens qui vont revenir plus régulièrement. Donc, forcément, à force de revenir plus régulièrement, on va aller creuser d'autres sujets et puis on va apporter d'autres choses. Donc, c'est vraiment unique pour chacun, en fait. C'est vraiment. En fonction de comment ça se passe.
C'est étonnant parce que ce qui t'a sorti, enfin pour parler de la période après le burn-out que t'as évité, mais en tout cas cette période-là, t'as décidé de le faire par la marche. Et le métier que tu as choisi, c'est de soigner les pieds des gens. C'est quand même incroyablement significatif.
Oui, c'est ça. En plus, ça m'avait été finalement, moi je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Et quand on m'en a parlé, ça m'a paru assez, ça a résonné en moi.
Ouais.
Est-ce que j'aurais jamais eu forcément l'idée, parce que moi, pour le coup, comme j'étais plutôt un intellectuel, hein, je travaillais justement dans l'informatique, j'avais pas forcément cette idée que je serais compétent ou que ça me plairait.
Palper, quoi.
Ouais. Ouais. Mais par contre, en fait, dès que j'ai commencé, ça m'a paru tellement naturel, en fait.
C'est drôle.
De revenir par justement ce contact, le toucher. Et là, je me suis senti vraiment hyper à l'aise, quoi.
C'est dingue.
Donc, ouais. Et justement, maintenant, j'aime avoir ces deux compétences, parce que travailler le corps, passer par le corps, c'est tellement important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment. Besoin de s'ancrer dans le corps, enfin de vivre, voilà. Et donc prendre soin du corps aussi, ça c'est hyper important, quoi. Parce que quand on est, la façon dont on vit le monde va vraiment dépendre de comment on se vit dans son corps, c'est à dire que si on est bien, on n'a pas trop de douleur, on est tranquille, on voit bien qu'on va être quand même beaucoup plus détendu. À partir du moment où on va être un peu crispé, tout d'un coup le monde va devenir beaucoup plus compliqué, on sera moins patient, on va être plus réactif, ça va changer complètement.
C'est le chat, quoi, qui se mord la queue aussi, parce qu'on est toujours récupéré par ce qui se passe autour de nous, même si on se lève le matin en se disant je suis bien, il y a toujours une bonne raison pour qu'un élément imprévu de la journée nous emmène vers de la souffrance, donc une tension, Et donc se dire, merde, ce matin, j'étais bien, et à cause de ce que j'ai vécu, reçu, les émotions que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés, ce qu'ils m'ont amené et tout ça, allez, je me suis fait récupérer et je suis tout plus bien.
Ouais, mais là, c'est parce que du coup, c'est toi qui autorises ça, en fait. C'est-à-dire que le monde, il est ce qu'il est. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui va rentrer dans la pièce, qui va commencer à nous insulter de tous les noms, toi, tu vas peut-être le prendre pour toi, tu vas prendre, c'est-à-dire c'est inadmissible, etc. Et moi, je vais peut-être dire, mais en fait, qu'est-ce que j'en ai ? C'est pas un problème pour moi. Tu vois, donc c'est ton approche à toi, c'est la façon dont toi, tu vas recevoir les choses qui vont faire que... Les autres ne sont jamais le problème, le souci. C'est ça, c'est que souvent, on a un problème, c'est l'autre. L'autre m'embête, l'autre est sale, l'autre est pas gentil, etc. Non, en fait, si toi, t'es bien avec toi-même, tu vas voir que tout va s'éclairer beaucoup plus facilement. Et qu'en fait... c'est ça, c'est qu'à un moment, une espèce d'ouverture qui fait que, en fait, il y a des choses qui glissent. Ça veut pas dire que toi, tu vas pas à des moments donnés être un peu réactif et tout. Mais c'est pour ça que quand t'es bien dans ton corps et que tu te sens bien, t'es beaucoup plus en capacité, justement, de faire face à quelqu'un qui va être un peu agressif ou énervé, etc. Tu vas voir que toi, tu vas être. Bah, non, mais ça va, cool, quoi. Et en général, l'autre, ça le détend.
Bah là, Pascal, je connais, il est pas bien dans son corps parce que ça fait 3 mois qu'il a pas fait son petit billet d'humeur. Donc là, il est tendu comme un élastique.
Comme
attention.
Un string.
Mais oui, on continue la discussion tout de suite,
bah
Sébastien.
Oui, bien sûr.
Radio Campus en.
Ah, excusez-moi, je vous casse un peu les oreilles après ces échanges.
Le sous-bock.
Tout cool. Excuse-moi pour tout ce que je vais dire.
Radio Campus en vie.
Pardon les gars, Afterworker et que mécréant de France et de Navarre, française, français, Dieu, étudiante, étudiant, toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis le début, everybody tout le monde, bien la bonne fin d'après-midi, putain, 10 ans, une décennie, une vie, une génération.
Mais oui.
Imaginez ces auditeurs de Radio Campus qui, à l'époque, étudiants boutonneux et priapiques, cherchant avec frénésie et luxure à se priapiser les uns et les autres, j'ai cherché, ça existe, à longueur de journée, nous écoutaient déjà avec ferveur et assiduité, et qui nous écoutent toujours. Si, Sébastien, ils nous écoutent toujours. Aujourd'hui, dans leur pavillon acheté à crédit, installé dans leur canapé Ikea, en donnant le biberon au bébé d'une main et la manette de console de l'autre, en se faisant cette réflexion que toutes les chaînes de radio nous envient, quand même, l'Afterwork, c'est vraiment une bonne émission, et bordel de Dieu, Boursier et Pia, ils n'ont pas changé. Merci les enfants de cette louable et plaisante pensée, mais si nous avons changé, et je peux vous l'avouer, sans trahir un secret, sans craindre son courroux, et surtout parce qu'il est de plus en plus malentendant, surtout Olivier Pia, qui a, n'en déplaise aux ménagères de moins de 72 ans, beaucoup vieilli. En témoignent ces ridules, que dis-je, ces crevasses, dignes de la faille de San Andreas au coin de ses yeux, aux commissures de sa bouche quelque peu bavante, et que dire de ses joues tombant inexorablement sur le col de ses chemises à fleurs, élimées et ternies par des heures d'antenne et de préparation d'émission. Alors, je vous le dis tout net, chers auditeurs, heureusement pour vous que c'est de la radio, parce qu'effectivement, à l'instar du physique, la voix reste ferme, placée, sûre, le verbe est toujours aussi flamboyant et riche, l'envie et la passion n'ont pas failli, ni ne se sont taris depuis 10 ans, oui, je le confirme. Là-dessus, vous avez raison, on n'a pas changé. Je veux, pour preuve de cette magnifique vitalité intellectuelle, l'exigence que nous mettons à choisir nos invités, et cette semaine ne fait que monter le niveau de cette exigence, n'est-ce pas, Sébastien ? Oui, je sais, ces mots peuvent te mettre la pression. Tu peux, et ce serait bien pardonnable, ressentir ce fameux syndrome de l'imposteur. Tu pourrais, même ayant réalisé l'importance du moment que tu vis, là, tout de suite, maintenant, la prise de conscience de la responsabilité et la charge qui t'incombe depuis que tu es rentré dans ce studio, douter de tes compétences et de ta crédibilité. Des sentiments tout à fait louables, tout à fait humains, rassure-toi. Sébastien, dis-toi bien que ta place ici aujourd'hui n'est pas usurpée, mais au contraire, bien légitime. Nous t'avons voulu, nous t'avons même désiré de toutes nos forces, de toute notre âme, comme deux parents émerveillés devant le nouveau-né. Parce que, oui, une nouvelle saison de l'Afterwork, c'est un peu une nouvelle naissance. Et notre plus beau bébé sera sûrement celui-ci.
Mon Dieu.
Le 10e. Alors, fais-toi confiance, Sébastien. Lâche-toi. Nous sommes là comme deux chaperons qui t'entoureront durant toute cette émission de notre bienveillance et notre affection. Tu es ici chez toi, Sébastien.
Pire en pire.
Seb. C'est Mouné.
Mon Dieu.
Notre nouveau-né qui s'éveille à la vie. Et là, tu me vois venir avec mes gros sabots. L'éveil. Voilà une chose qu'elle est bien. Ben oui, l'éveil permet de ne plus se faire suer avec tout ce que j'ai énoncé dans cette lamentable chronique. La compétence, la crédibilité, la confiance. Tu es bien au-dessus de toute cette considération, toi, petit padawan devenu grand Jedi éveillé. Bon, en lisant ton bouquin, Seb Kenobi, j'ai bien compris que ce fameux éveil, ce graal spirituel n'est pas si simple à atteindre. Un peu comme moi quand le réveil se met en branle le matin à 7h. Faites-moi le réveil, les gars. Ah non, ah non, merde, merde, non, foutez-moi la paix, je suis pas un être éveillé, je suis déjà un être qui a du mal à se réveiller, alors laissez-moi dans ma souffrance et mon ignorance et mes croyances. Souffrance de trouver la bonne position pour dormir, ignorance des rêves que je vais faire et croyance que je peux faire la grasse matinée. Tout ça, ça me va très bien, mais admettons, je suis un être éveillé. Mais du coup... Quand tu es réveillé, comment ça se passe? Tu marches dans la nature, zen, tranquille, éveillé, et bam, tu marches dans une bouse. Mais comment ça se passe? Tu es toujours aussi éveillé, zen, tranquille. Même en ville, tu marches éveillé, zen, tranquille, et bam, tu marches dans une merde de chien. Tu es toujours aussi zen, tranquille, éveillé. Non, j'imagine que tu dois être énervé, comme tout le monde. Ah oh, mais non, je suis bête. Tu n'existes pas, Sébastien. Tu fais partie d'un tout. Tu es le tout, bien sûr. Alors, ça veut dire que samedi matin, quand je me suis fait éclater au tennis 6-0-6-0 par un plus vieux que moi, je pouvais revendiquer la victoire au nom du tout. Tu es moi, je suis toi, donc on a gagné tous les deux. Avec mon ex-femme, on était mariés, on faisait un tout, et maintenant on est séparés. Alors on fait quoi? Un rien? Moi, j'ai l'impression qu'on fait ce qu'on peut. Et les clubs libertins, comment ça se passe? Le patron éveillé propose « Bon là les gars, vous me faites un tout, mais pas plus de 10 par salon, on n'a pas assez de place. Hein, et je tiens à contrôler les touts. Merde !» Allez, ça s'organise. Et si on est un tout, c'est qu'on n'est personne. Donc, si ça sonne chez moi, je réponds quoi? Avec malice, il n'y a personne! Et mon préposé au poste qui veut me faire signer mon énième recommandé de contravention non payé se dit « Oh putain, il est éveillé le mec, je vais pas le déranger !» Et si c'est la voisine super canon qui sonne? Ah si, il y a quelqu'un, je suis le voisin, hein? Je disais que j'étais personne, mais enfin non, je suis quelqu'un. Et si je suis un tout? Si je suis tout, je suis ta chaussure, Olivier.
Oui.
Pense-y quand tu mets le pied au sol. Je suis le brocoli que tu as cuisiné aujourd'hui. Pense-y quand tu me portes à ébullition.
C'est pas la saison.
Je suis chou-fleur, je suis lapin, je suis vous, je suis le monde. Je suis complètement parti, là. Pardonnez-moi. Arrête la musique. Bref. Je blague avec tout ça, Sébastien, et tente de faire de l'humour parce que je suis loin d'être sorti de mon petit égo trip réduit à quémander un peu d'amour et de reconnaissance au travers de mes pauvres chroniqués. Je suis jaloux et envieux de ton éveil, Sébastien, qui m'impressionne. Mais qu'est-ce que je vois là, Sébastien, sur ton visage, ces yeux mi-clos, ce petit mouvement de bouche? Mais tu bailles? Serait-ce que tu te fais chier comme un rat mort pendant ma chronique? Toi qui étais proche de l'éveil, Vlad, je t'ai endormi! Ah, n'est pas Yoda qui veut, un bon entendeur! Salut les mécréants!
Eh bien, bravo Pascal Boursier!
Il
est revenu
podcast,
chargé!
Radio Campus Angers.
Ça fait du bien les vacances, hein, n'est-ce pas?
J'ai mal aux mâchoires là.
Quelquefois, on est prêt à faire le tour du monde pour trouver quelque chose, quelqu'un qui se trouvait juste à côté de nous. Mais oui, c'est la morale de cette petite complainte. A tout de suite, les amis!
Crémoué, quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Mais des fois, j'ai l'impression c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
Pascal Boursier nous parlait d'éveil tout à l'heure. Mais la chanson correspond complètement à la thématique de l'émission.
C'est vrai.
Il faut, Sébastien Solo, que l'on parle de cette maison d'édition, il y a, et de ses nombreux talents.
Oui,
comment c'est arrivé cette maison d'édition? Toi, tu étais à la base du projet,
ouais,
avec Sylvie Armand,
c'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors, en fait, cette maison d'édition, d'ailleurs, elle est née à l'étang Saint-Nicolas.
Ah ouais, ouais.
Bah, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon troisième livre, Vers une vie sans souffrance, j'avais quelques touches avec des maisons d'édition, mais ça allait prendre du temps, et puis moi, je voulais que ça sorte là. Et puis, okay. Sylvie, que j'avais rencontrée, je voulais qu'elle collabore avec elle, et, parce qu'elle est vraiment très talentueuse, je voulais qu'elle me fasse ma couverture. Donc, j'avais déjà fait l'auto-édition, donc j'ai dit, allez, hop, on se lance comme ça, de toute façon, ça marchera très bien comme ça. Et puis, me venait en tête une rencontre avec des gens, et je me dis, mais en fait, ils vont me dire, il est sorti chez qui ? Je dis, faut quand même que je mette un nom d'édition, toi, même si c'est pour la blague. Donc, le nom est venu, et puis je dis, voilà, très bien, on a un nom. Donc, je dis à Sylvie, écoute, on pourrait peut-être faire un petit logo. Elle avait écrit un livre aussi, je dis, tu veux pas te mettre avec moi, comme ça, on sera deux, ça fera un peu moins couillon, quoi, dans la maison d'édition, on sera deux. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, mais attends, il y a sûrement des gens qui ont écrit des choses magnifiques, qui sont pas pris dans la maison d'édition. Nous, finalement, on a la capacité, elle a son talent créatif de faire des couvertures, tout ça. On peut monter quelque chose, et puis on va les accompagner pour sortir leur livre, en fait. Donc, on a dit, on va commencer par se rendre visible, donc, on fait le site internet. Et puis après, là, c'est le miracle de la vie, parce que si personne n'en voit rien, il n'y a pas de maison d'édition. Et on a reçu tout de suite, très rapidement, J'ai choisi l'amour, d'Eddie Dupré, et Polka, et si tout ça n'était qu'un jeu. Deux manuscrits, mais incroyables, donc nous, on n'en revenait pas, on dit, mais attends, on n'existe même pas, on
reçoit assez... C'est beaucoup de temps de lire un manuscrit, de donner son avis, enfin, c'est vraiment très... Ça demande une application importante.
Ouais, c'est ça. Oui, ça demande une application, mais en fait, il y avait vraiment le plaisir de la lecture, c'est-à-dire que nous, il faut que ce soit vraiment au coup de cœur, c'est-à-dire qu'on lit, faut vraiment que ça nous fasse... Le truc, il est génial, toi. Faut que j'appelle Pascal, faut que je lui raconte, et j'ai trouvé un super bouquin. Tu vois, si ça fait pas ça, c'est pas la peine, quoi. Et donc, on reçoit ces deux livres magnifiques, très différents, très complémentaires, deux énergies différentes. Donc, voilà. Donc, en fait, ça s'est fait complètement naturellement. C'est-à-dire que on les a sortis, et puis après,
Vous aviez déjà quand même une petite expérience. Enfin, comment ça se faisait la structure d'une maison d'édition?
Alors, pour le moment,
on fait de la com.
En fait, on découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, comment on fait un contrat. Donc, on va rester un contrat hyper sérieux. Donc, on regarde un peu tout ce qui se fait, etc. Après, le site internet pour la com, on découvre aussi. Pour le moment, on n'a pas la structure de maison d'édition en termes de les diffuseurs, etc. Alors, pour le moment, on va en direct sur notre site.
D'accord.
Parce que la structure n'est pas assez conséquente pour que ça soit vraiment intéressant. Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, cette question se posera. Et là, du coup, on a déjà des gens qu'on connaît un peu pour aller questionner si c'est le cas échéant.
Avec un trait commun, si on peut dire, c'est ce que vous expliquez sur le site internet, c'est « Nous avons à cœur de mettre en lumière les artistes qui témoignent de l'incroyable beauté du monde ».
Voilà, c'est ça, exactement. Nous, en fait, on ne veut pas du tout, surtout pas s'enfermer dans la spiritualité, par exemple. Alors là, moi, comme Sylvie, là-dessus, c'est hyper clair.
Dans l'éveil.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, ça devient un peu une niche, ça peut un petit peu un entre-soi.
Sans l'exclure non plus.
Bien sûr. Ça arrive. Bah non, par exemple, le prochain livre, il sera vraiment dans cette thématique-là. C'est un livre qui va s'appeler Être. Et là, pour le coup, c'est vraiment typé spiritualité. Donc, on n'est pas non plus. Voilà, on va pas non plus remettre ça de côté. Mais là, par exemple, on va sortir un recueil de poésie d'un auteur en juin. Donc, vraiment de la poésie. Voilà, parce que c'est magnifique aussi. Ça peut être du roman. Ça peut, tout ce qui va nous toucher, en fait, au cœur, qu'on aura envie de partager. Ouais.
Quelqu'un qui a un projet, un livre ou de la poésie peut aller sur le site, envoyer le manuscrit et papoter avec vous.
C'est ça.
Ça peut être.
Et puis c'est toujours une rencontre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre et puis on se fait toujours une visio avec la personne pour savoir si on a envie de collaborer ensemble, en fait. C'est pareil. On peut avoir des manuscrits qui nous paraissent bien, puis on n'a pas forcément un feeling, donc on ne va pas donner suite. Parce que nous, on va forcément s'impliquer, ça nous prend du temps après de travailler. On passe un moment avec les personnes. Après, on va les accompagner justement s'il y a de la com et des choses comme ça. Donc c'est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'on ait envie en fait de bosser ensemble, quoi, tout simplement. Donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'à un moment donné on va dire banco, on y va, quoi.
Vous connaissez vos lecteurs?
Oui, il y a certains, la partie justement c'était beaucoup au début du chercheur spirituel, du chercheur spirituel, mettez-moi du chercheur spirituel qui se pose plein de questions, qui veut des réponses. Donc faut que ça soit du concret, faut apporter quelque chose, quoi. Mais justement, nous, on aimerait ouvrir un peu à ça, juste à des gens qui ont envie, des fois, de lire un livre.
On est à la genèse, en fait. Tout va. Pascal, toi qui as mis la main dans le panier.
Oh, bah, dis donc.
De la maison d'édition et dans la petite dizaine de bouquins qui est sortie, tu as eu un coup de cœur récemment?
Alors, tu es bien généreux, une petite dizaine. Non, pour le moment, on en a sorti 5.
Oui.
Donc,
C'est une petite dizaine, effectivement. Je mettais très bon calcul.
Moitié. C'est à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai parcouru, parce que j'ai pas eu le temps de plus, mais le livre de Polka, avec ses histoires de...
Et si tout ça n'était
qu'un jeu.
Voilà. C'est parallèle avec les jeux vidéo. J'ai trouvé ça...
C'est quoi le pitch, alors, par rapport aux jeux vidéo, tu disais?
Bah en fait, c'est là aussi, c'est un peu son parcours.
C'est du roman.
C'est un peu une.
Oui, c'est
une
un roman, ouais.
Et voilà, c'est une prise de conscience sur justement. C'est toujours pareil, les mots, c'est difficile. La spiritualité.
Attends, Sébastien.
L'éveil. Ouais, je vais faire le pitch, en fait.
Ouais.
C'est...
Ah oui, parce que je croyais que tu me posais la question à moi. Super, c'était pas à moi.
Mais je te demandais si t'avais un coup de cœur.
T'as l'air de ramer un peu.
Merci, merci. Oui, tu m'inviteras à une prochaine
émission. Non, je te demandais si t'avais un coup de cœur, mais je sais que.
Alors, parle-nous de Polka.
Tout n'était qu'un jeu.
Allez, vas-y.
Ouais, non, bah Paul, j'adore. En fait, c'est l'archétype, tu vois, du maître et du disciple. Là. Donc voilà, c'est l'histoire d'un gars, tu vois, qui est un peu dans une vie classique, un peu perdu, et puis il va rencontrer un type qui va l'amener tranquillement, avec beaucoup d'humour, quelque chose de très léger à lire, très agréable à lire, à regarder le monde. Et si le monde était un jeu vidéo, en fait, et si, tu vois, quelle différence entre un jeu à la première personne, etc., et la vie. Alors bien sûr, on va dire non, mais c'est absurde, la vie. Mais en le lisant, on peut s'ouvrir à des choses, on peut essayer de reconnaître des choses et de se dire Et voilà, et là il peut se passer des choses,
Oui, voilà, non, parce qu'il y a des scènes, c'est concrètement, et lui dire là ce que tu viens de faire, bah tu viens de passer ta vitesse là. Là tu viens de débrayer, tu viens d'être. Bah pourquoi? Bah parce qu'on a décidé d'aller manger. Ah, on a décidé d'aller manger. Donc tu vas faire un parcours, puis tu vas manger. Puis quand tu vas manger, comment ça se passe? Mais tu peux décider tout à fait à un moment d'arrêter ton parcours et de changer de direction, par exemple. C'est un jeu. C'est toi qui décides.
Ouais.
Mais est-ce que vraiment tu décides? Est-ce que tu vois les Sims?
Ouais.
T'as ton personnage, les autres, est-ce que c'est toi vraiment qui décides? Donc il l'ouvre à tout ça. J'en ai pas lu assez pour tout comprendre. Mais c'est très drôle, c'est très vivant, c'est très funky, c'est très drôle. Ça se prend pas la tête. Mais par contre, ça ouvre tellement de questions.
Oui, et là, alors, ce qu'on essaie d'apporter, nous, finalement, mais sans vouloir se mettre différent des autres. La couverture, bon, là on a la radio, c'est un peu embêtant. Mais tu vois, en fait, on a envie de proposer un peu des choses différentes, tu vois. Là, par exemple, la couverture qui est très style des années 80, les jeux
Pac-Man,
Zelda, etc. Ben, on voulait ça, en fait, parce que ce livre, il a cette énergie-là, et on voulait justement que ça soit drôle, ça soit fun, ça soit joyeux, tu vois. Ça change un peu justement des approches, des fois.
Ouais, y a
avec
des
une belle photo et tout ça, c'est bien
exactement.
Aussi. Mais nous, on voulait apporter quelque chose d'autre, quoi.
Oui, le fameux coucher de soleil.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, mais on voit les couvertures. Je vous invite à aller voir le site Ilia Édition, YLIA. Il y a aussi des cartes. Ça, c'est une autre partie de la maison d'édition. C'est spécifique.
C'est de l'édition aussi. Donc, tu vois, il y a
la carterie.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'aime bien aussi les cartes. C'est des beaux objets. Et puis souvent, les gens, ils aiment bien aussi jouer avec ça. Parce qu'en fait, c'est amusant. Moi qui ai pu faire, j'ai un ami qui fait pas mal aussi de tirage de cartes et tout. C'est souvent assez bluffant. Donc voilà, c'est pas chercher à comprendre nécessairement. Mais des fois, on a des questions et à travers les cartes, il y a quelqu'un qui peut nous apporter des réponses. Et donc, voilà, c'est aussi des beaux objets, donc on propose ça aussi. Voilà. Mais après, voilà, on peut vous proposer aussi d'autres types d'objets. Tout ce qui va être de l'édition, en fait, on ne veut pas s'enfermer dans un mode d'expression unique. Donc, voilà, ça peut être des petits objets aussi. Des pochettes de livres, par exemple, Sylvie a fait aussi des pochettes à livres pour offrir.
Ah ouais, pour mettre des livres.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un super cadeau. Tu as un livre et puis tu as ta pochette cadeau qui est là comme ça.
Ouais, vous avez envie de partager, quoi. Vous avez envie de rencontrer, de faire des choses, d'aider aussi des gens à concrétiser leurs projets.
Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps, en fait, je crois. Finalement, moi, ce que j'aime, c'est accompagner. Maintenant, j'en suis à un point de ma vie où c'est ça qui me plaît. Alors, du coup, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être justement en soins, pour de l'édition, pour d'autres choses.
Faire plaisir.
Ouais, c'est ça. Marcher ensemble, tu sais, finalement, on revient à ça. On est tous en train, chacun fait son chemin, mais c'est sympa aussi quand on a des gens à côté de soi. On peut faire un bout de chemin ensemble. On est tous des compagnons les uns pour les autres. En tout cas, je pense que c'est ça qui peut rendre la vie vraiment chouette, quoi.
Et alors, ta collègue a sorti un jeu de cartes, Sylvie Armand, l'éveil en images. Toi, tu voulais nous parler d'éveil, Pascal, précisément?
Ben oui, parce qu'en fait, on en parle régulièrement, automatiquement. On vient sur ce terme d'éveil qui, lui, est encore assez méconnu. C'est quoi ta définition de l'éveil aujourd'hui?
Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste et alors il y a beaucoup de peur, des malentendus, d'incompréhension. Pour moi, l'éveil, en fait, c'est un moment donné, il y a la réalisation qu'en fait, on n'est pas cette personne individualisée, autonome et séparée des autres. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans l'éveil qui disparaît et qui fait que ce sentiment ou cette illusion de croire que je suis quelqu'un dans un corps qui prend mes décisions et qui fait les choses, etc., en fait, est une illusion. Et ce n'est pas un concept qui est nouveau, c'est le message depuis des milliers d'années. Depuis le Bouddha, Jésus, et ça a été réexprimé différemment dans toutes les religions, mais ça dit toujours la même chose en fait.
Ouais.
C'est quelque chose qui a toujours été là, qui est difficile à percevoir pour les gens, parce qu'en fait c'est tellement grammé que surtout à une époque actuelle on vit vraiment avec ce côté individualiste, que du coup ça paraît complètement absurde. Là forcément on va entendre, on va dire mais lui il est barré quoi.
Voilà, c'est toujours ça la différence. Quelqu'un d'éveillé paraît perché, alors qu'au contraire, il est très ancré.
C'est pas quelqu'un qui s'éveille, en fait. C'est pas quelqu'un d'éveillé. Mmh. C'est qu'à un moment, il y a une reconnaissance que. Et pourquoi, en fait, c'est absolument rien. Pourquoi il y a ces questions qui se sont posées en moi à un moment donné, de me dire mais c'est quoi ce truc, en fait. C'est quoi cette vie. Et que d'autres n'ont pas l'air du tout de se poser. Là, ça fait partie du mystère de cette vie. Le départ de cette maison d'édition, c'est parce que moi, ça m'a bouleversé le fait qu'il y a. En fait, il y a, et du coup, on l'a mis sous une autre forme. Mmh. Mais c'est le fait d'être en vie, qui est la vie, c'est bouleversant en fait. Ça paraît naturel, tout le monde dit bah non, mais ok, on se lève, on est là. Mais en fait, non. Qu'est-ce qui fait que là, je peux voir cet homme magnifique devant moi, là, qui me regarde avec des yeux.
C'est Pascal Boursier.
Mais c'est juste extraordinaire. C'est complètement dingue. Hein.
Mm. Bah, c'est souvent quand les choses disparaissent qu'on se rend compte à quel point c'était génial en fait. Ou la santé simplement, ou pour Pascal le code Wi-Fi. Enfin, là, c'est vrai. C'est, malheureusement, souvent il faut passer par là. Quoi. Ouais. On précisera tout à l'heure l'adresse mail, peut-être les réseaux sociaux qu'il y a autour d'Ilia. Ouais. Pas facile. Hein. Et cette musique qui résonne, il y a cette musique.
Sébastien, nous allons maintenant procéder à un dos à dos. Mais restons dans cette position, il n'y a pas de souci, on est à la radio. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre ce qui vous vient.
Ok.
Du tac au tac, comme ça, sans... ce qui vous vient. Sébastien, qu'est-ce qui vous met hors de vous, malgré l'éveil ?
Ouais, alors moi, j'ai pas une nature, je suis isolé, à me mettre tellement hors de moi.
S'il y avait quelque chose. Dans la vie de tous les jours.
Au moins,
vous énerve
coup de
un
gueule.
Petit peu quand même. Allez.
Ouais, les gens qui vont être indifférents justement à la fragilité des autres. Par exemple, moi, c'est quelque chose qui me touche quand je vois des gens qui sont fragiles, vulnérables. Voilà, qu'on passe, qu'on les laisse complètement, ça me touche.
Sébastien, si vous étiez un tout,
hein ?
Si j'étais un quoi ? Si vous étiez un tout, ce serait quoi ?
Un tout ? Bah, l'univers, tant qu'à faire, allez.
Allons-y.
Allez.
Hey, oh. Sébastien, chez un homme ou une femme, vous regardez en premier le tout ou quelque chose en particulier ?
Voilà, ça va faire un peu bête. Je pense que c'est vraiment par le regard. Il y a vraiment quelque chose dans le regard. Après, évidemment, le tout est important. Je vais raconter l'histoire. Mais dans le regard des gens, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mmh.
Sébastien, l'amour, c'est être un tout ou un toutou?
Ah non, pas un toutou, il faut que chacun s'exprime ce qu'il est, quoi.
Mais les couillonnons.
Sébastien, les hommes sont-ils tous égaux ou sont-ils tous des égaux?
Bonne question. Mais...
Alors, 4 mois de vacances.
4 mois qui bûchent.
La semaine prochaine, il n'y aura rien pour les
bonnes. Je comprends tout seul pourquoi je suis tout seul, parce que plus personne ne me supportait, en fait.
chacun est unique. Alors, tous égaux, non. Mais non, pas tous égaux.
D'accord. Voilà. Ok. Sébastien, aujourd'hui, avec ce chemin que vous avez fait, ce fameux petit doigt de pied qu'on cogne contre le pied de la table, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ?
Ah ben ça part pas. Là, c'est le petit différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est toujours là. Donc quand ça pète, ça fait « Ah putain, sa mère !»
Sébastien, quelle est votre Madeleine de Proust à vous ?
Madeleine de Proust, Noël, moi je crois que je garde encore ça, de la magie de Noël. Ouais.
Sébastien, si vous aviez une baguette magique, que voudriez-vous changer ?
Que voudriez-vous changer ? Je vais pas vous dire la paix dans le monde, ça fait un peu bateau quand même.
Ce serait un bon début.
Ça serait pas mal quand même, tant qu'à faire. Mais donc les gens puissent se retrouver avec eux-mêmes, tels qu'ils sont, quoi.
Et Sébastien, si vous aviez une intuition, là, tout de suite, maintenant, sur ce qui va se passer.
Alors moi, je suis plutôt optimiste, malgré ce qui semble se passer dans le monde. Et d'ailleurs, par exemple, ce qui s'est passé cet été a plutôt tendance à me rassurer. Enfin, me rassurer, je ne sais pas que je vais bien être rassuré, mais qui va dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire que les gens ont envie de vivre ensemble, les gens ont envie d'aller au marché, de passer du temps ensemble, de faire des choses en commun. Ils ont envie de ça, quoi. Parce que ces gens-là, on ne les entend pas, en fait, mais quand ils se manifestent, d'un coup, boum, ils apparaissent, quoi. Donc, c'est comme les champignons, ils sont dans un coin, on ne les voit pas, mais boum. Donc, moi, je suis plutôt très optimiste. Donc voilà. Mmh. Et puis d'abord, la vie, elle est plus cool quand on est optimiste, même si ça doit tourner en caca plus tard. Mais en attendant, mais okay. Non.
Donc eh bien, les champignons de l'afterwork, je vous remercie.
On manque de personnalité éveillée, alors, au plus haut poste de l'État, par exemple ? Enfin, de l'État, je parle pas
c'est
forcément
même incompatible.
Je parle pas forcément de politique, mais je veux dire, voilà, des gens importants pour le groupe.
Oui, bah ça, c'est possible pour le coup. Peut-être là, pour le coup, les choses importantes, on pourrait parler, c'est de la bienveillance, finalement, en fait. Oui, finalement, quelque chose qui m'énerve un peu, c'est les gens qui manqueraient de bienveillance envers les autres, quoi. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, des fois, je pense que les gens qui partent dans cette voie-là, ils sont plein de bonnes intentions au départ, et parce que voilà, il y a un sens d'envie de participer au sens commun, mais au bien commun. Mais peut-être que justement, quand on arrive en haut, là, trop fréquenter le pouvoir, peut-être qu'on oublie un peu ça, et que du coup, on sent qu'il y a quand même peut-être un décalage qui se crée, quoi. Mais heureusement, voilà, il y en a sûrement qui sont très très bien.
Ils vont arriver, t'inquiète pas.
Retrouvez toute l'équipe de l'Afterwork en podcast sur le www.radiocampusangers.com.
Eh bien, un grand merci Sébastien d'avoir pris le temps de nous présenter tes livres, la suite de ton parcours. On en parlera de temps en temps, quand tu veux. Et puis, Ilia, dont on peut rappeler les références, les réseaux sociaux, site internet, etc.
Ouais, donc ylia-edition.com. Voilà, et pareil, vous allez la retrouver sur Facebook, sur la même adresse.
Ouais.
Et puis voilà.
Et puis c'est déjà
et grosso modo, toi, tu es réflexologue, donc les gens peuvent t'appeler. En fait,
alors, je suis à La Source.
Ah, tu viens ?
Ouais.
C'est un espace de coworking à Angers, alors qui est vraiment, si vous êtes sur Angers, franchement.
C'est à Grand Maine.
Ouais, c'est ça. C'est un lieu avec 7 espaces et nous, une quinzaine de praticiens. Et donc, les gens peuvent venir, ils vont trouver vraiment plein de choses différentes. Ils peuvent trouver de l'acupuncture, du massage, des psychologues, sexologues, enfin vraiment des approches.
Massage
des approches complémentaires de santé. Et donc, on parlait justement des fois de prendre du temps pour soi, de faire une pause. Là, c'est un endroit où on vient et on fait un petit break, quoi. On coupe un peu le temps et on s'offre une respiration. Et des fois, c'est juste ce qu'il nous faut, une petite respiration avant de revenir dans la vie active, quoi.
Ah ouais. La vie.
La Source, pareil, à retrouver sur.
Sur les réseaux, ouais. Etc. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, ton blog. Sébastien. Je te présente Hugo, le jeune homme arrivé en maillot de bain, là, tout bronzé.
Hugo. Ah oui, en maillot de bain tout bronzé.
Lunettes de soleil.
Qui prend l'antenne à 18h.
Exactement,
sur Radio Campus Angers.
L'antenne à 18h. Qu'est-ce qui se passe ce week-end à Angers, vous savez, messieurs?
Les accroche-cœurs avec un Z.
Ah, oui. Les accroche-cœurs avec un Z, exactement. Figurez-vous qu'on parle des accroche-cœurs, puisqu'on est hyper original sur le Centre FM.
Oh, c'est bien, il faut le faire.
Et on est avec Marie Drio, la personne qui a programmé, qui s'est occupée toute la programmation des accroche-cœurs.
Ah, très bien.
On a détaillé le programme. Vous allez voir, il y a tout un tas de trucs absolument incroyables à faire. Et c'est évidemment, encore une fois, totalement gratuit. Et pour les étudiants, c'est super la culture gratuite.
Ouais. Et j'espère qu'il va pleuvoir. Maintenant, les grands événements, il
pleut
donc
à chaque fois. Ouais.
Ça serait bien qu'il pleuve. comme
tout le monde.
Moi, s'il fait beau, j'y vais pas.
Thomas Josy a des accroches angevines très fortes. Alors, forcément, il a plu.
Merci beaucoup, ouais, Hugo.
Merci
Sébastien. À très vite. Ouais. Et puis, Pascal.
À très, très vite aussi.
On se dit aussi, peut-être.
Pas la semaine prochaine, mais celle d'après, j'espère.
Jamais très, très loin.
Allez.
Merci de ta fidélité. À très bientôt, les amis. Belle fin de journée à tous.
Bravo.
Je sais jamais comment se quitter.
Ouais, c'est
toi qui raccroche ou.
J'habite alors.
L'Afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com.
Quoi ? De notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. C'est à laisser ou à prendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon corps peut se fondre. Sois dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien su te comprendre. Amour cruel en duel, deux adorés sans merci, tu choix des hommes ou celui des larmes. Pense-y, pense-y, et qu'on soit que c'est à la mort, à la vie. Quoi, de notre amour fou ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir, va comprendre. Amour cruel, comme en duel, doses adorées sans merci tu as le choix des armes ou celui des larmes. Pense-y, pense-y, et qu'on soit que c'est à la mort, à la vie. J'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de te rendre. Va donc savoir, va comprendre.